Alors, est-ce que vous êtes malade ce matin? Est-ce que vous êtes malade ce matin? Est-ce que vous êtes malade spirituellement ce matin? Attention! Attention à la réponse qu'on va faire. Parfois, dans nos vies, on traverse des moments difficiles qui nous perturbent au plus haut point. Et on commence à douter de Dieu. On commence à douter de son amour. On commence à douter de son existence. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Si Dieu m'aimait, ça ne m'arriverait pas. Si Dieu était amour, ça ne m'arriverait pas. Si on a le courage de faire le bilan spirituel, on s'aperçoit quoi ? Qu'il est plutôt bas, voire nul. Si on a un diagnostic... Ah, je vais vous mettre... Si je l'allume pas, c'est vrai que... Ah non, si, voilà. Si on a un diagnostic à poser sur notre santé spirituelle, il y a un livre qu'il faut aller voir. Le livre d'Osée. C'est facile de se soustraire à la communion de Dieu quand les choses sont difficiles. Et surtout, parce que ça tourne pas comme on veut. Vous savez, Dieu, je veux que... On met un euro, on tire, on attend la bénédiction. Mais il en résulte souvent, et on s'en aperçoit pas, et c'est là le malheur. Une perte d'équilibre spirituel. Qui va dans des profondeurs qu'on sous-estime même pas. Et on a intérêt d'y remédier au plus tôt, parce que ça peut atteindre des effets catastrophiques et désastreux dans nos vies. Alors on pourrait croire que tout est fini, on pourrait croire qu'arriver dans cet état-là, il n'y a plus grand-chose à faire, sinon que retourner dans le monde, comme j'ai déjà entendu. Et si on lit en Hébreux 13, versets 20 et 21, il est dit que le Dieu de paix vous rende capable de toutes bonnes œuvres. La phrase pourrait être ainsi traduite, je veux dire littéralement, que le Dieu de paix restaure votre équilibre. Quand quelqu'un se démet un bras, vous savez, le bras qui sort de l'articulation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le remettre tout de suite en place. Et sur les plans des relations avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Il faut tout de suite remettre les choses en place. Pour retrouver cet équilibre spirituel qu'on a perdu. Et en fin de compte, nous amener à redevenir et à avoir notre place au sein du corps de Dieu, son Église, son épouse. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes convaincu que chacun va passer devant le tribunal de Christ? Est-ce que vous le savez que chacun on va passer devant le tribunal de Christ? Notre âme va être pesée, notre vie va être pesée. Et plus loin, il est dit que nous serons sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire que les gens qui auront une vie... C'est sûr qu'il n'y a plus de condamnation. Quand je parle du tribunal, on sait qu'il n'y a pas la condamnation. Mais on va quand même passer devant Christ. Et il va te dire, tu te souviens? Et là, vous allez vous souvenir. On va se souvenir chacun. Tel jour, telle heure. Pourtant, dans ma parole, tu lisais. Mais regarde le comportement que tu as eu. La faiblesse spirituelle nous amène dans ces travers-là. Lorsqu'on lâche la main de Dieu, ça nous amène là. Oser. Son message, c'est le plus émouvant qu'on puisse lire dans la parole de Dieu. C'est un message, en fin de compte, qui jaillit de ses profondeurs, parce qu'elle jaillissait de sa vie privée. Il vivait ces choses. En fin de compte, Osée s'adresse à Éphraïm, qui en était le destinataire. C'est Dieu qui parlait, en fin de compte, aux 10 tribus du Nord, parmi lesquelles Éphraïm avait une place importante. Qu'est-ce que fait Osée ? Il pose un diagnostic sur le déclin spirituel d'Israël. Et c'était quoi votre avis ? Ce que vous êtes et ce que je suis peut-être ce matin ? La superficialité. Vous savez, quelque chose qui est léger, qui ne pèse pas lourd devant l'Éternel. Et regardez ce que Dieu dit. Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Elle ne vaut rien. Et notre époque, ce monde d'aujourd'hui, est caractérisé par la superficialité. Vous avez la mode. On est atterré avec mon épouse. Quand on voit les gens qui sont tatoués, j'ai vu un tatouage hier qui m'a horrifié. Il y avait une dame qui se promenait dans un magasin, alors vous imaginez, elle met des shorts, elle ne peut pas mettre de pantalon, on ne verrait pas ce magnifique tatouage, devant une tête de mort, et derrière la représentation du visage de Jésus-Christ avec 3 croix du mont du Golgotha. Mais si, mais où on va ? Mais est-ce qu'on n'en fait pas parfois autant dans notre vie spirituelle ? Mélanger les choses de Dieu avec tout et n'importe quoi. Alors on dit, oui, mais je te prie, Seigneur, pour changer ça dans ma vie. Le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas le temps d'agir. On est tellement pressé, on ne laisse pas le temps d'agir. Même quand on est convaincu de péché, lorsque le Seigneur pose son doigt sur quelque chose qui est dans notre vie, on ne laisse pas le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur jusqu'à provoquer la haine de ce péché. Dieu le fera bien un jour. Dieu est amour. En fin de compte, on prend ça avec légèreté. Avec légèreté. Parce qu'on se dit, ben, j'ai pris le baptême. Parce qu'on se dit, je vais dans une église. Je suis sauvé. Mais on a oublié une chose, c'est qu'on va passer devant le tribunal de Christ. Et vous savez que souvent, les résolutions qu'on prend. Alors, je dis, Seigneur, je te remets ce péché et je fais demi-tour dans ma vie. Les résolutions qu'on prend sont totalement, souvent, très souvent, éphémères. Elles sont aussi éphémères que la rosée du matin. Elle s'en va au premier rayon de soleil. Éphraïm, en fin de compte, était totalement inconstant dans sa piété. Un coup, il était en haut. Un coup, il était en bas. Et elle pouvait s'évanouir, comme je l'ai dit, comme la rosée du matin. Tout disparaissait. Vous savez, au premier truc qui est difficile dans notre vie, on fout en l'air l'eau du bain et le bébé avec. On accuse Dieu. Mais attends, je veux t'apprendre la patience. On va en venir plus tard. Je veux t'apprendre l'amour. Je veux t'apprendre, en fin de compte, tu t'en aperçois même pas, les choses que tu n'as pas maintenant, aujourd'hui, dans ta vie. C'est ça, tout simplement, que je veux t'apprendre. Les choses que j'ai mises devant toi. Rappelez-vous, Jacques, mardi, on en a parlé. Les épreuves. C'est pas pour t'embêter. De toute façon, dans les épreuves, je suis toujours avec toi. C'est pour t'apprendre. Et on voit l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu dit, que ferais-je, que te ferais-je, Éphraïm? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et souvent, notre instabilité, notre superficialité rendent Dieu perplexe. Mais jusqu'où vais-je aller avec lui ou avec elle? Mais gloire à Dieu, on a des exemples dans la parole. Simon-Pierre, avant la Pentecôte, comment il était, Simon-Pierre? Oh, au secours, au secours. Simon-Pierre, c'était tout et n'importe quoi. Il aimait pas le vide, il disait des bêtises. Des bêtises. Le jour où il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une colonne. Ça nous fait réfléchir sur... Est-ce que j'ai réellement reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'ai été vraiment régénéré en Jésus-Christ? Un deuxième danger, c'est la sanctification partielle. Et là, je pense que je vais faire rire, et il y en a parmi nous, celles qui font des gâteaux. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné en Osée chapitre 7 verset 8. En fait, c'est une image qui était très familière aux Israélites. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais sinon nos chères épouses et même peut-être époux qui cuisinent, ça leur est peut-être déjà arrivé où ils reçoivent quelqu'un, ils présentent un gâteau qui est beau extérieurement, mais l'intérieur n'est absolument pas cuit. En fin de compte, c'est raté. Et le gâteau ici, qui est évoqué dans ce passage, était cuit sur un grill. D'accord ? Si on négligeait de le retourner, il brûlait d'un côté, de l'autre côté, il n'était pas cuit. C'est exactement notre caractère à chacun. Qui est souvent développé d'un côté, et de l'autre côté, qui est complètement retardé. Pas babache, mais c'est-à-dire qu'il nous manque des choses. Et en fin de compte, certains progrès, il y a des choses qu'on voit dans une personne qui sont neutralisées par un autre aspect qui fout tout en l'air. Vous avez beau avoir une partie du gâteau qui est magnifique, si l'autre côté n'est pas cuit, vous allez le jeter à la poubelle. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec nous devant Dieu. C'est une carence, en fin de compte, qui nous gâte tous. Tous. On soustrait volontiers certains domaines de notre vie au feu consumant du Saint-Esprit. On ne veut surtout pas. On laisse la porte fermée à ces choses-là. Il y en a certains qui sont très avancés dans la connaissance biblique, mais leur expérience personnelle concernant la grâce de Dieu est totalement plate, c'est-à-dire élémentaire. D'autres sont généreux de nature, mais violents dans leur tempérament. Ou alors d'autres rigoureux sur le plan de la doctrine, mais pauvres dans l'expérience de l'amour des frères et sœurs. Vous voyez, il manque toujours quelque chose. On souffre en fin de compte d'un fonctionnement inégal dans notre vie spirituelle. un déséquilibre. Mais gloire à Dieu, parce qu'il est toujours temps de retourner le gâteau. Pourquoi ? Parce que sous le grill, la flamme du Saint-Esprit brûle toujours. Rien n'est perdu. Alors il ne faut pas hésiter à exposer ces choses au Saint-Esprit. Il faut, parce que ces choses déficientes nous empêchent de quoi ? D'entrer dans le royaume. La troisième chose, et ça on l'oublie souvent, c'est la séparation incomplète. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. En Osée 4, 17, Éphraïm se mêle avec les peuples. Osée 7, 8. Le texte ici n'envisage pas de fausse séparation. Vous savez, la fausse séparation qui nous met hors de portée des gens du dehors. On est dans notre petit truc à nous, nous on les laisse mourir. Quand Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », qu'est-ce qu'il a dit à votre avis ? Il n'a pas dit « Ben, le sel est d'un côté et la viande de l'autre ». Si vous voulez saler un plat, vous allez le mettre dans le plat. Dieu ne nous appelle pas à être dans notre petit truc et de laisser le monde livré au diable. Il nous appelle à amener le témoignage. Le problème, c'est quoi notre témoignage ? C'est la colère ? C'est l'envie ? C'est la paresse, c'est l'idolâtrie. Même Jésus a été l'objet de la critique des pharisiens parce qu'il se mêlait au bas peuple. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. En Luc 15, 2. C'est incroyable. Il se dit fils de Dieu et il va avec le bas peuple. Est-ce qu'on en fait autant ? Est-ce qu'on a le courage d'en faire autant ? Il y a une séparation obligatoire qu'on doit opérer dans notre vie. Ça, c'est clair. Éphraïm devait se séparer des idoles et des nations païennes, pardon. Et Dieu n'a pas dit à Éphraïm, vous savez, je l'ai mis en noir parce que c'est pas dans la parole. Puisqu'il tient ses idoles, je les lui laisse. Cela ne m'empêchera pas d'être avec lui. Bien au contraire. L'Éternel se lamente sur ce que fait Éphraïm. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Osée 11, 8. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec toi ? T'écoutes pas, t'entends pas ? Dieu n'allait certainement pas abandonner Éphraïm, mais il avertit Juda de ne pas suivre son exemple. Écarte-toi de lui. Lui fait ce qu'il veut. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. Osée 4, 15. Si ton frère pêche, est-ce que tu vas le suivre ? Si dans ta famille, on te demande de faire des choses complètement déréglées, est-ce que tu vas le faire ? Parce que c'est ta famille. Vous voyez, ça, c'est une preuve du déclin spirituel. C'est s'interdire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. En fin de compte, si on est dans cette optique-là, on abaisse notre niveau spirituel et on donne de la confiture au cochon. Dieu dit, laisse-le. Va-t'en, laisse-le. Certaines collaborations avec le monde doivent être rompues. Certaines collaborations avec certaines choses que l'on fait doivent être coupées. Pourquoi ? Parce que ça nous emmène loin de la communion avec Dieu. Réfléchissez à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on croit faire pour le bien de Dieu et qui est pour le bien du malin. Vous savez que le malin a cette facilité de nous entretenir dans une religiosité, de faire croire que c'est le rôle du malin. Il va endormir quelqu'un dans une assemblée et lui faire croire que, ben oui, tu es sauvé. Ben oui, tu es sauvé. Et d'un seul coup, quand l'Esprit de Dieu frappe cette personne, on a des gens qui se retrouvent par terre. On les ramasse à la petite cuillère parce qu'ils prennent conscience du chemin qu'ils ou elles ont pris. Le Seigneur était séparé des pécheurs, en Hébreux chapitre 7, verset 26. Il était séparé de façon morale et spirituelle, mais pas rationnelle, c'est-à-dire que physiquement, il était avec eux. Mais spirituellement et moralement, il était à des années-lumière. Est-ce que c'est notre cas quand on est avec nos familles? Il y a un frère qui s'est mis en colère parce que son frère lui a parlé mal du Seigneur. Il est parti. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je parle un frère de sang, hein. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'insulte pas le nom de Dieu. On n'insulte pas celui qu'on aime. On se sépare. Laisse-le. Et il faut considérer que ces choses nous détériorent inconsciemment. Oula, j'ai dû aller un peu trop loin. Voilà. Des étrangers consument sa force et ne s'en doutent point. Pas, pardon. La vieillesse s'empare de lui et ne s'en doute pas. Osée, chapitre 7, verset 9. On va parler des cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est quoi? C'est un signe du déclin physique. C'est signe que l'on vieillit. Mais ces cheveux blancs, ils apparaissent, progressivement. Rares, il y en a eu, hein, mais rares sont les cas qui ont été blanchis, c'est-à-dire venus blancs, en une nuit. Parce que le déclin spirituel est généralement inconscient. C'est-à-dire que ça vient tout doucement. Tout doucement. Vous savez, des fois on s'aperçoit au bout de moult temps que, tiens, j'ai un cheveu blanc, alors qu'il était là depuis... Un rétrograde, c'est-à-dire que celui qui se détourne de Dieu ne le devient pas du jour au lendemain. Hein. Il y a tout un processus. Ça commence par une vision spirituelle qui est complètement estompée. Le deuxième point, c'est l'enthousiasme qui diminue pour lire la parole, pour prier, pour partager avec ses frères et sœurs. Vous savez, ce déclin, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, puis d'un seul coup, on se retrouve chez soi à écouter des prédications. Puis au bout d'un temps, ben, c'est plus les prédications, c'est la musique qu'on écoute. Et pourtant, l'amour de Dieu est toujours là. Nous, on l'a largué de notre vie. La mésalliance d'Éphraïm aussi, ça a été l'origine de son déclin et de son idolâtrie. Et bien sûr, comme dans tous les textes bibliques que vous pouvez voir, l'immoralité a amené quoi ? Pardon, l'idolâtrie a amené l'immoralité. Et en fin de compte, l'affaiblissement de l'armure morale de la nation entière. Pour nos vies, c'est exactement le même processus. Est-ce que des symptômes de sénilité spirituelle apparaissent dans nos vies ? La vieillesse spirituelle. Il faut veiller à cela parce que le déclin, en fin de compte, fait son œuvre, même si nous sauvegardons les apparences. Si on montre aux gens une belle image, vous savez, quand vous prenez un décor de cinéma, vous savez, vous traversez, vous allez par exemple au truc de... Je ne me rappelle plus la ville. C'est, en fin de compte, les décors, c'est juste les façades. Derrière, il n'y a rien. Mais pour certains, leur vie, c'est ça. La façade, c'est un décor. Et quand on fait le tour, et vous savez à quoi on s'en aperçoit ? À la première épreuve. C'est pour ça que Jacques dit « Traverse les épreuves dans la joie. » Parce que moi, je vais te montrer que Dieu veut t'apprendre la patience. Dieu veut t'apprendre la persévérance. Mais s'il n'y a rien derrière, on s'appuie sur quoi ? On s'appuie sur qui ? Aujourd'hui, si tu es dans la mouise, aujourd'hui, si tu as des difficultés, tu t'appuies sur qui ? En sachant que Dieu pose son doigt et change la situation. Ça ne sert à rien d'aller braire à droite et à gauche. Ça ne sert à rien. Est-ce que ta situation va changer ? Non. Lève les yeux au ciel. On en verra. On verra tout à l'heure. L'ignorance, vous savez, ce qu'on ne sait pas, provient aussi de quelque chose de très important. Et on n'arrête pas le dire dans cette église. Que fais-tu avec la parole de Dieu ? Ah, mais je lis mon chapitre tous les matins ! Moi, je lis Spirou tous les matins. Et je ris. Non, vous voyez, la comparaison, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous lisiez Spirou. Ou n'importe quelle bande dessinée. Ça, on va le voir. Le mardi soir. Quelque chose de très important. Jacques 1, 22-25. Mettez en pratique la parole. C'est bien beau de faire des grands discours, mais si en arrière, je ne suis pas ce que je lis, ça sert à quoi ? Les gens, ils vont me dire, mais Pascal, il y a 15 jours, tu as prêché sur l'amour. Aujourd'hui, je te vois en train de secouer José. Et je comprends pas. Ah, mais hors de question de pardonner à Alain. Ce qu'il m'a fait, c'est... Non, je peux pas lui pardonner. Ouais, vous êtes en train de rire, mais... Est-ce qu'on l'a pas vécu, ça ? Est-ce qu'on l'a jamais vécu, ça ? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah, je suis chrétien, je suis sauvé, rien ne peut m'arriver. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous savez, et je vais vous le redire une énième fois, Comment vous savez si vous êtes chrétien? Le meilleur des tests. Première épître de Jean. Méditez le premier épître de Jean. Et vous me direz la vérité dans un mois peut-être. Mais dites-moi la vérité dans un mois. Moi, ça a été les deux fils qui se joignent, ça fait des étincelles. Ça a été ça pour moi. J'étais absolument pas chrétien. Quand j'ai commencé à lire, j'étais à des années-lumière de ce que je lisais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, je suis pas ça, mais c'est pas grave, Dieu va agir. Je suis parti. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça que j'ai fait? Ben non. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus de ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, quelqu'un qui construit quelque chose, un potier, sa première cruche, il l'a réussi du premier coup. C'est faux. Vous pouvez discuter avec n'importe quel potier, vous dire, ben non, il a fallu des heures et des heures de travail. La persévérance. N'étant pas un auditeur oublieux. Ben oui, si tu lis la parole, tu entres dans la parole, c'est Dieu qui te parle. C'est pas le fait d'écouter des prédications, c'est pas le fait d'être là assis et écouter, mais c'est regarder dans la parole ce que Dieu a à te dire. Mais se mettant à l'œuvre, pratique. J'ai lu, je mets en pratique. Celui-là sera heureux, béni. C'est ça que ça veut dire. Sera béni dans son activité. Si on se donne la peine de regarder notre vie au prisme de la parole de Dieu, je suis désolé de vous le dire, mais on va voir combien la différence est grande entre ce que nous croyons être et ce que nous devons être. Il y a un monde. Nous constatons, il y a un constat qui est très vite fait, qu'on a un niveau de religiosité qui est malheureux au-dessus du plafond, plutôt qu'une soumission à Christ. Obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas le tralala et la musique qui est importante. C'est ce qu'on a au fond du cœur. Vous avez des gens qui sont habillés, des fois dans les rues, ils sont mal habillés, qui sentent. Quand vous allez dans leur cœur, ils ont un amour incroyable pour les gens. Est-ce que le recul spirituel s'est amorcé parce qu'on était trop occupé pour mettre notre vie sur le grill de la parole de Dieu? Ou est-ce que peut-être on a une vue biaisée de notre vie spirituelle? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je vous le répète, qui se croient à un niveau... Des fois, il faudrait même peut-être se coucher devant eux parce qu'ils sont super chrétiens, alors qu'ils ne sont rien du tout. Devant Dieu, vous savez que quand on va comparaître devant Dieu, vous savez ce qui va être important? C'est qu'il voit Jésus-Christ au travers de nous. Alors si on n'a pas le sermon sur la montagne dans notre cœur, ni même le premier épître de Jean, je ne vous conseille pas de paraître devant Dieu. Ça, je parle aux gens qui ne sont pas régénérés. Et il y en a parmi nous. Il y a des gens qui ont reçu le baptême et qui ne sont pas régénérés. Il suffit simplement de regarder. Je vous dis, Dieu pose son doigt. Il va poser deux fois. Il va poser une première fois pour vous montrer ce qui ne va pas. Et suivant votre réaction, il le posera une deuxième fois pour l'enlever. Si tu n'as pas cet enclin spirituel à te regimber, de dire « je ne veux plus de ça dans ma vie », tu vas t'effondrer, comme Éphraïm s'est effondré. Paul a exhorté les chrétiens de Corinthe « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit » en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Dieu ne peut pas accomplir à notre place cette purification. Vous savez, c'est comme José pourrait vous l'expliquer. Un wagon qui est sorti des rails. On le remet sur les rails. Est-ce qu'il peut avancer ou reculer? Il faut la locomotive. Notre locomotive, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on peut être sorti du chemin. Le Seigneur va nous remettre sur le chemin. Mais si on n'embrasse pas Christ, ça ne sert strictement à rien, on va rester en gare. C'est pas vrai, José? Et lorsqu'on prend conscience de ces choses, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, en Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Dieu, en fin de compte, ne se contente pas de dire, ben voilà, t'es malade, t'as ça qui va pas dans ta vie. Avec sa grâce, il nous donne le traitement, la possibilité de sortir de cette chose dans laquelle on est tombé. Et le traitement sera différent suivant l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. C'est ce qu'il a proposé à Éphraïm. Il nous exhorte à la repentance. Non pas une confession, ben, « Seigneur, voilà, ce matin, j'ai pas fait ça ou j'ai fait ça. » Ben non. Le Seigneur, il dit, mais c'est pas une liste de courses. C'est à venir devant le Seigneur avec un cœur contrit, avec la crainte de l'Éternel. On apporte avec nous des paroles. On apporte avec nous des envies d'actes. J'ai envie de changer. On dit à l'Éternel, pardonne toutes mes iniquités. Là, c'est marqué toutes les iniquités. Mais pardonne toutes mes iniquités, en Osée 14, verset 2. Et si nos péchés ont été commis délibérément, il faut les nommer un par un, sans en oublier un. Si ça prend deux jours, ça prendra deux jours. C'est pour votre salut. Ensuite, il nous appelle à renoncer aux alliances. Vous savez qu'Éphraïm avait fait un pacte avec les Assyriens. Et il avait même... Il était dépendant de la cavalerie égyptienne. Et ça a causé sa perte. En fin de compte, l'Éternel demande une rupture ferme et définitive de toutes les alliances qu'on aurait pu passer. Ça, c'est le constat qu'a fait Éphraïm. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. En Osée 14, verset 3, première partie. Et toute idolâtrie doit être bannie. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Notre Dieu ». Qu'est-ce qu'on adore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on adore aujourd'hui? Dieu ne tolère rien d'autre que lui dans nos vies. Est-ce qu'on en a conscience? Finalement, Dieu invite Éphraïm à revenir à lui, en 14, verset 2, et à se tourner à nouveau vers lui. Dans sa grâce, il est prêt à accueillir Éphraïm, qui est coupable, et à lui pardonner. V'là notre Dieu. V'là de quoi est capable notre Dieu. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Là, c'est notre Dieu d'amour. En Osée, chapitre 14, verset 4, il y a trois bénédictions qui suivent cela, et la restauration. La première, je serai comme la rosée pour Israël. La rosée. Osée 14, verset 5. La rosée, vous rappelez, la piété d'Éphraïm était comme la rosée du matin, c'est-à-dire qu'elle ne valait pas grand-chose. Au premier rayon de soleil, tout s'évaporait. Mais Dieu va lui donner sa rosée. Et vous savez qu'au Moyen-Orient, la rosée joue un rôle extrêmement important dans l'épanouissement de la nature. Sans elle, la nature va mourir. C'est une image merveilleuse du renouveau spirituel que propose l'Éternel à tous ceux qui se sont éloignés de lui. Sous l'effet de la rosée, Israël est appelé à revenir à l'Éternel et à bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu lui a faites. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel. Michée, chapitre 5, verset 6. Ça va devenir un grand peuple. En fin de compte, ce que dit l'Éternel à Éphraïm, à Jacob, si vous préférez, il le dit également à chacun d'entre nous. On va être au bénéfice perpétuel d'un renouveau. On va devenir un moyen de constant rafraîchissement pour ceux qui nous entourent. La fraîcheur de la rosée permet au parfum, par exemple de la fleur, de s'exhaler. Fraîcheur et parfum vont de pair. Quand il fait sec, essayez de sentir une fleur, elle ne sent pas du tout. Dès qu'il commence à pleuvoir, ça exhale. Dieu promet à Israël par son serviteur Osée, ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Osée 14, 6. Il va vous rendre votre beauté. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a perdu la communion avec Dieu, spirituellement est devenu sombre, est devenu laid? Est-ce qu'on s'en aperçoit? Quand un frère va s'est éloigné du Seigneur, regardez le visage qu'il a. Il a perdu le sourire. Il a perdu la joie. Il a perdu l'empathie. Il a tout perdu, en fin de compte. Et en fin de compte, on doit avoir ce parfum, le parfum de Jésus-Christ sur nous. Vous savez que quand Jésus était mort et les Juifs ont reconnu les apôtres, ils dirent, enfin, ils l'ont reconnu parce qu'ils les avaient vus avec Jésus. Ils avaient encore le parfum de Jésus, le parfum de la grâce de Jésus sur eux, en eux. Est-ce qu'on a le parfum de la grâce de Dieu en nous? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a au point que le monde est attiré par nous? Qu'est-ce qu'il a de... Je voudrais savoir ce qu'il a de particulier pour être comme ça. Il lui arrive plein de choses et pourtant, il est dans la joie. Est-ce que tu as pris conscience de la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as pris conscience que l'Éternel a détourné sa colère de toi grâce à Jésus-Christ? On dit oui, mais est-ce qu'on a réellement conscience de ces choses? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est une parole pour chacun d'entre vous. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. N'importe où on va, on amène Christ avec nous. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Vous êtes ce matin le parfum de Christ. En 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. En fin de compte, José va rappeler que le créateur de la rosée et du parfum est également celui du fruit. C'est de moi que tu recevras ton fruit. La branche cassée qui est détachée du tronc ne peut pas amener un fruit à maturité. Vous avez une pomme au bout d'une branche, vous coupez la branche, regardez la pomme au bout de 2 mois. Elle est morte. Il n'y a plus la sève qui passe. La sève, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous êtes comme ça ce matin, si vous êtes en rupture de communion avec Dieu, vous ne pouvez absolument pas porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne pouvez pas porter le fruit de l'Esprit. Mais ce matin, l'Éternel vous appelle à être greffé à nouveau sur l'arbre qui est Christ et vous appelle à porter du fruit pour sa gloire, pas pour la vôtre, mais pour sa gloire. Alors, je vais terminer par cette question, c'est est-ce que vous le voulez sincèrement? Pensez à vos vies, pensons à nos vies, pensons à ce que nous sommes, pas dans le monde, mais par rapport à Dieu. Est-ce que on est hypocrite? Est-ce qu'on est malhonnête? Est-ce qu'on singe? Je vous rappelle que singer est un verbe que Satan adore, parce qu'il a occupé et il occupe toute sa vie à faire ça, singer les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes un singe de Dieu? Un singe ne fait que reproduire ce qu'on lui a appris. Il ne vit jamais ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, est-ce que ce matin, vous voulez réellement que cette vie spirituelle soit pleinement accomplie en vous? Oui, il ne vous reste pas grand-chose à faire. Mais c'est souvent là-dedans qu'on se plante. C'est le demander à Dieu. Le demander à Dieu d'une façon honnête, d'une façon sincère. Et pour une fois, en disant à Dieu, ben non, en fin de compte, j'ai singé cette vie. Et c'est quelqu'un qui a vécu ça qui vous en parle. Et à un moment donné, et c'est ça où c'est magnifique, l'amour de Dieu va venir vous cueillir à un moment où vous n'y attendez même pas. Il va vous mettre dans une fosse, dans une citerne, comme Joseph a été mis. Mais vous savez que Joseph a été mis dans la citerne pour les plans de Dieu. Et il vous mettra dans la citerne pour ses plans et pas pour vos plans. Amen. Je vais prier. Et ensuite, je vais vous souhaiter bon dimanche. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie qui n'est pas parfaite. Et tu le sais. Mais Seigneur, tu sais aussi que je me tiens devant toi tous les jours pour recevoir de toi les bénédictions. Seigneur, tu ne t'intéresses absolument pas au paraître. La première chose que tu regardes dans le cœur d'un homme, c'est son cœur. Alors regarde ce matin le cœur de mes frères et sœurs. Montre, pointe ton doigt sur les choses qui ne vont pas. Que tu puisses appeler ceux qui sont éloignés à revenir à l'Éternel. Ils en connaissent le chemin, ils savent comment faire. Mais c'est le courage et la force qui leur manquent. Pour d'autres, c'est l'honnêteté, l'aveuglement de penser avoir une vie parfaite en toi. Mais montre-leur aussi, ouvre leurs yeux remplis d'écailles, afin qu'ils se voient dans le miroir et qu'ils puissent se lancer dans ta parole, dans les profondeurs de ta parole, pour revenir à toi aussi. Il y a tous ceux aussi qui tournent autour de toi sans s'approcher, parce qu'ils pensent que peut-être le temps n'est pas pour aujourd'hui, mais qu'ils se méfient parce qu'il est peut-être déjà trop tard. Alors Seigneur, j'appelle ton esprit à saisir ce matin les âmes de ceux que toi, tu veux dans ton royaume. Seigneur, ce n'est pas nous à choisir. Ce n'est pas nous à dire celui-là, il peut, celui-là, il ne peut pas. Mais c'est toi qui l'ai choisi, Père. Alors choisis ce matin. Et Seigneur, je sais que les choses sont faites pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.